Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Pour conclure cette série de podcasts sur les femmes et les sciences, j'ai pensé faire appel à l'un des plus importants secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, Nicolas de Condorcet, qui a occupé ce poste de 1776 à sa mort en 1793. Figure emblématique des Lumières, philosophe, mathématicien, homme politique pleinement engagé dans la Révolution française, il a dû s'enfuir suite à sa condamnation à mort par la Convention nationale en 1793. Il se cache pendant 9 mois avant d'être découvert. Il meurt dans des circonstances peu claires. Je vous propose de lire un texte résolument féministe, datant de 1790, revendiquant le droit pour les femmes de voter et de participer à la vie politique. Il ne sera pas écouté à l'époque, c'était il y a 234 ans. Pour illustrer un révolutionnaire, il fallait bien de la musique engagée, même révolutionnaire. Alors vous écouterez des extraits de « Balance ton porc » et « Si j'étais un homme » par Sheila. Sur l'admission des femmes au droit de citer. Écrit le 3 juillet 1790. L'habitude peut familiariser les hommes avec la violation de leurs droits naturels, au point que, parmi ceux qui les ont perdus, personne ne songe à les réclamer, ne croit avoir éprouvé une injustice.
Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère.
Il est même quelques-unes de ces violations qui ont échappé aux philosophes et aux législateurs lorsqu'ils s'occupaient avec le plus grand zèle d'établir les droits communs des individus de l'espèce humaine et d'en faire le fondement unique des institutions politiques.
Tu me seras redevable si je te paie un verre.
Par exemple, tous n'ont-ils pas violé le principe de l'égalité des droits en privant tranquillement la moitié du genre humain de celui de concourir à la formation des lois en excluant les femmes du droit de citer? Est-il une plus forte preuve du pouvoir de l'habitude, même sur les hommes éclairés, que de voir invoquer le principe de l'égalité des droits en faveur de 300 ou 400 hommes qu'un préjugé absurde en avait privé, et l'oublier à l'égard de 12 millions de femmes?
Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si
tu pour que cette exclusion ne fût pas un acte de tyrannie, il faudrait ou prouver que les droits naturels des femmes ne sont pas absolument les mêmes que ceux des hommes, ou montrer qu'elles ne sont pas capables de les exercer.
Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie.
Or, les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner sur ces idées. Ainsi, les femmes, ayant ces mêmes qualités, ont nécessairement des droits égaux. Où aucun individu de l'espace humain n'a de véritables droits, où tous ont les mêmes. Et celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens.
Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je
regarde. Il serait difficile de prouver que les femmes sont incapables d'exercer les droits de citer. Pourquoi des êtres exposés à des grossesses et à des indispositions passagères ne pourraient-elles pas exercer des droits dont on n'a jamais imaginé de priver les gens qui ont la goutte tous les hivers et qui s'enrhument aisément? en admettant dans les hommes une supériorité d'esprit qui ne soit pas la suite nécessaire de la différence d'éducation, ce qui n'est rien moins que prouvé et ce qui devrait l'être pour pouvoir sans injustice priver les femmes d'un droit naturel. Cette supériorité ne peut consister qu'en deux points. On dit qu'aucune femme n'a fait de découverte importante dans les sciences, n'a donné de preuves de génie dans les arts, dans les lettres, etc. Mais sans doute, on ne prétendra point n'accorder le droit de cité qu'aux seuls hommes de génie. On ajoute qu'aucune femme n'a la même étendue de connaissances, la même force de raison que certains hommes. Mais qu'en résulte-t-il ? Qu'excepté une classe peu nombreuse d'hommes très éclairés, l'égalité est entière entre les femmes et le reste des hommes. Que cette petite classe mise à part, l'infériorité ou la supériorité se partage également entre les deux sexes. Or, puisqu'il serait complètement absurde de borner à cette classe supérieure le droit de cité et à la capacité d'être chargée de fonctions publiques, pourquoi en exclurait-on les femmes plutôt que ceux des hommes qui sont inférieurs à un grand nombre de femmes?
Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle, je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène.
Si je t'achète enfin, une chaîne, dira-t-on qu'il y ait dans l'esprit ou dans le cœur des femmes quelques qualités qui doivent les exclure de la jouissance de leurs droits naturels? Interrogeons d'abord les faits. Élisabeth d'Angleterre, Marie-Thérèse, les deux Catherine de Russie ont prouvé que ce n'était ni la force d'âme, ni le courage d'esprit qui manquaient aux femmes. Élisabeth avait toutes les petitesses des femmes. Ont-elles fait plus de tort à son règne que les petitesses des hommes à celui de son père ou de son successeur? Les amants de quelques impératrices ont-ils exercé une influence plus dangereuse que celle des maîtresses de Louis XIV, Louis XV ou même d'Henri IV?
Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même.
Croit-on que Mistress Macaulay n'eût pas mieux opiné dans la Chambre des communes que beaucoup de représentants de la nation britannique? N'aurait-elle pas, en traitant la question de la liberté de conscience, montré des principes plus élevés que ceux de Pitt et une raison plus forte? Quoique aussi enthousiaste de la liberté que M. Burke peut l'être de la tyrannie, aurait-elle, en défendant la Constitution française, approché de l'absurde et dégoûtant Gallimassias par lequel ce célèbre rhétoricien vient de la combattre? Les droits des citoyens n'auraient-ils pas été mieux défendus en France, aux États de 1614, par la fille adoptive de Montaigne que par le conseiller Courtin qui croyait aux sortilèges et aux vertus occultes? La princesse des Ursins ne valait-elle pas un peu mieux que Chamillard? Croit-on que la marquise du Châtelet n'eût pas fait une dépêche aussi bien que M. Rouillet? Madame de Lambert aurait-elle fait des lois aussi absurdes et aussi barbares que celles du garde des Sceaux d'Armenonville contre les protestants, les voleurs domestiques, les contrebandiers et les nègres? En jetant les yeux sur la liste de ceux qui les ont gouvernés, les hommes n'ont pas le droit d'être si fiers.
Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos?
Les femmes sont supérieures aux hommes dans les vertus douces et domestiques. Elles savent, comme les hommes, aimer la liberté, quoiqu'elles n'en partagent point tous les avantages. Et dans les républiques, on les a vues souvent se sacrifier pour elles. Elles ont montré les vertus de citoyens toutes les fois que le hasard ou les troubles civils les ont amenées sur une scène dont l'orgueil et la tyrannie des hommes les ont écartées chez tous les peuples.
Si j'étais un homme, oh, 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 si j'étais un homme, oh, 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 si j'étais un homme, oh,
on a dit que les femmes, malgré beaucoup d'esprit, de sagacité et la faculté de raisonner, portée au même degré que chez de subtils dialecticiens, n'étaient jamais conduites par ce qu'on appelle la raison. Cette observation est fausse. Elles ne sont pas conduites, il est vrai, par la raison des hommes, mais elles le sont par la leur.
Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs, je draguerais les darons, les...
Leurs intérêts n'étant pas les mêmes, par la faute des lois, les mêmes choses n'ayant point pour elles la même importance que pour nous, elles peuvent, sans manquer à la raison, se déterminer par d'autres principes et tendre à un but différent. Il est aussi raisonnable à une femme de s'occuper des agréments de sa figure qu'il était à Démosthène de soigner sa voix et ses gestes.
M'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme.
On a dit que les femmes, quoique meilleures que les hommes, plus douces, plus sensibles, moins sujettes aux vices qui tiennent à l'égoïsme et la dureté du cœur, n'avaient pas proprement le sentiment de la justice, qu'elles obéissaient plutôt à leurs sentiments qu'à leur conscience. Cette observation est plus vraie, mais elle ne prouve rien. Ce n'est pas la nature, c'est l'éducation, c'est l'existence sociale qui cause cette différence. Ni l'une ni l'autre n'ont accoutumé les femmes à l'idée de ce qui est juste, mais à celle de ce qui est honnête. Éloignées des affaires de tout ce qui se décide d'après la justice rigoureuse, d'après les lois positives, les choses dont elles s'occupent, sur lesquelles elles agissent, sont précisément celles qui se règlent par l'honnêteté naturelle et par le sentiment. Il est donc injuste d'alléguer, pour continuer de refuser aux femmes la jouissance de leurs droits naturels, des motifs qui n'ont une sorte de réalité que parce qu'elles ne jouissent pas de ces droits.
Dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferais des promesses que je ne saurais tenir. Te couvrirais de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir.
Si on admettait contre les femmes des raisons semblables, il faudrait aussi priver du droit de cité la partie du peuple qui, vouée à des travaux sans relâche, ne peut ni acquérir des lumières, ni exercer sa raison, et bientôt, de proche en proche, on ne permettrait d'être citoyen qu'aux hommes qui ont fait un cours de droit public. Si on admet de tels principes, il faut, par une conséquence nécessaire, renoncer à toute constitution libre. Les diverses aristocraties n'ont eu que de semblables prétextes pour fondement ou pour excuse. L'étymologie même de ce mot en est la preuve.
Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos?
Si j'étais... On ne peut alléguer la dépendance où les femmes sont de leur mari, puisqu'il serait possible de détruire en même temps cette tyrannie de la loi civile et que jamais une injustice ne peut être un motif d'en combattre une autre.
Si j'étais un homme, oh, oh, ou, si j'étais un homme, oh, oh, ou, si j'étais un homme, oh, oh, ou, si j'étais un homme, oh, oh, ou.
Il ne reste donc que deux objections à discuter. À la vérité, elle n'oppose à l'admission des femmes au droit de cité que des motifs d'utilité, motifs qui ne peuvent contrebalancer un véritable droit. La maxime contraire a été trop souvent le prétexte et l'excuse des tyrans. C'est au nom de l'utilité que le commerce et l'industrie gémissent dans les chaînes et que l'Africain reste dévoué à l'esclavage. C'est au nom de l'utilité publique qu'on remplissait la Bastille, qu'on instituait des censeurs de livres, qu'on tenait la procédure secrète, qu'on donnait la question. Cependant, nous discuterons ces objections pour ne rien laisser sans réponse.
Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman.
On aurait à craindre, dit-on, l'influence des femmes sur les hommes. Nous répondrons d'abord que cette influence, comme toute autre, est bien plus à redouter dans le secret que dans la discussion publique, que celle qui peut être particulière aux femmes y perdrait, d'autant plus que si elle s'étend au-delà d'un seul individu, elle ne peut être durable dès qu'elle est connue. D'ailleurs, Comme jusqu'ici, les femmes n'ont été admises dans aucun pays à une égalité absolue, comme leur empire n'en a pas moins existé partout et que plus les femmes ont été avilies par les lois, plus il a été dangereux, il ne paraît pas qu'on doive avoir beaucoup de confiance à ce remède. N'est-il pas vraisemblable, au contraire, que cet empire diminuerait si les femmes avaient moins d'intérêt à le conserver, s'il cessait d'être pour elles le seul moyen de se défendre et d'échapper à l'oppression?
Comme un gentleman, il y a des hommes de valeur de cœur, des hommes fiers, l'ami, le bon mari, le frère et le père, celui qui prend soin de...
Si la politesse ne permet pas à la plupart des hommes de soutenir leur opinion contre une femme dans la société, cette politesse tient beaucoup à l'orgueil. On cède une victoire sans conséquence. La défaite n'humilie point parce que on la regarde comme volontaire. Croit-on sérieusement qu'il en fut de même dans une discussion publique sur un objet important? La politesse empêche-t-elle de plaider contre une femme?
Si j'étais un homme, si j'étais un homme.
Mais, dira-t-on, ce changement serait contraire à l'utilité générale parce qu'il écarterait les femmes des soins que la nature semble leur avoir réservés. Cette objection ne me paraît pas bien fondée. Quelle constitution que l'on établisse, il est certain que dans l'état actuel de la civilisation des nations européennes, il n'y aura jamais qu'un très petit nombre de citoyens qui puissent s'occuper des affaires publiques. On n'arracherait pas les femmes à leur ménage plus que l'on arrache les laboureurs à leur charrue, les artisans à leurs ateliers. Dans les classes plus riches, nous ne voyons nulle part les femmes se livrer aux soins domestiques d'une manière assez continue pour craindre de les en distraire. Et une occupation sérieuse les en détournerait beaucoup moins que les goûts futiles auxquels l'oisiveté et la mauvaise éducation les condamnent.
Si j'étais un homme, je ne le suis pas.
La cause principale de cette crainte est l'idée que tout homme admis à jouir des droits de cité ne pense plus qu'à gouverner. Ce qui peut être vrai jusqu'à certains points, dans le moment où une constitution s'établit. Mais ce mouvement ne saurait être durable. Ainsi, il ne faut pas croire que parce que les femmes pourraient être membres des assemblées nationales, elles abandonneraient sur le champ leurs enfants, leurs ménages, leurs aiguilles. Elles n'en seraient que plus propres à élever leurs enfants, à former des hommes. Il est naturel que la femme allaite ses enfants, qu'elle soigne leurs premières années. Attachée à sa maison par ses soins plus faibles que l'homme, il est naturel encore qu'elle mène une vie plus retirée, plus domestique. Les femmes seraient donc dans la même classe que les hommes obligés par leur état à des soins de quelques heures. Ce peut être un motif de ne pas les préférer dans les élections. Mais ce ne peut être le fondement d'une exclusion légale. La galanterie perdrait à ce changement, mais les mœurs domestiques gagneraient, par cette égalité comme par tout autre. Jusqu'ici, tous les peuples connus ont eu des mœurs féroces ou corrompues. Je ne connais d'exception qu'en faveur des Américains des États-Unis, qui sont répandus en petit nombre sur un grand territoire. Jusqu'ici, chez tous les peuples, l'inégalité légale a existé entre les hommes et les femmes. Et il ne serait pas difficile de prouver que, dans ces deux phénomènes également généraux, le second est une des principales causes du premier. Car l'inégalité introduit nécessairement la corruption, et en est la source la plus commune, si même elle n'est pas la seule.
Bah ouais, c'est encore chill. Il ne voit pas mon art, résume ma musique à mon sexe.
Je demande maintenant qu'on daigne réfuter ces raisons autrement que par des plaisanteries et des déclamations. Que surtout on me montre entre les hommes et les femmes une différence naturelle qui puisse légitimement fonder l'exclusion du droit. L'égalité des droits établie entre les hommes dans notre nouvelle Constitution nous a valu d'éloquentes déclamations et d'intéressables plaisanteries. Mais jusqu'ici, personne n'a pu encore y opposer une seule raison. Et ce n'est sûrement ni faute de talent, ni faute de zèle. J'ose croire qu'il en sera de même de l'égalité des droits entre les deux sexes. Il est assez singulier que dans un grand nombre de pays, on ait cru les femmes incapables de toute fonction publique et dignes de la royauté. Qu'en France, une femme ait pu être régente et que jusqu'en 1776, elle ne put être marchande de mode à Paris. Qu'enfin, dans les assemblées électives de nos bailliages, on ait accordé au droit du fief ce qu'on refusait au droit de la nature. Plusieurs de nos députés nobles doivent à des dames l'honneur de siéger parmi les représentants de la nation. Pourquoi, au lieu d'ôter ce droit aux femmes propriétaires de fiefs, ne pas l'étendre à toutes celles qui ont des propriétés, qui sont chefs de maison? Pourquoi, si on trouve absurde d'exercer par procureur le droit de cité, enlever ce droit aux femmes plutôt que de leur laisser la liberté de l'exercer en personne?
Balance ton porc, ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc, ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance ton porc, Mareuse, balance ton porc, ouais. Balance, ouais, balance ton porc, Mareuse, balance ton porc.
Non, pas de chasse. Les femmes sont exclues de la Déclaration des droits de l'homme en 1789, mais des clubs de femmes se forment. Le club des citoyennes républicaines révolutionnaires se réunit pendant tout l'été 1793. C'est exactement à ce moment que la Convention vote un décret d'arrestation contre Condorcet. Le 30 octobre 1793, la Convention dissout tous les clubs et sociétés populaires de femmes. Il est désormais interdit aux femmes de se réunir.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.